Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut dire avec moi la conquête des promesses? La conquête des promesses.
Nous entrons dans notre troisième semaine par rapport à cet enseignement qui est extrêmement important,
à la conquête des promesses. La conquête des promesses. À qui cet enseignement fait du bien? C'est important, cet enseignement est très important. Et moi en premier, je vous assure, ça me fait beaucoup de bien. En général, bon, en général, c'est celui qui donne l'enseignement qui doit le saisir en premier, déjà, d'accord? Donc moi-même en premier, ça me fait beaucoup de bien parce que je prends le temps de lire et de réécouter ce qui est dit dans cet enseignement-là. Et pour 2014, pour cette nouvelle saison, le Seigneur a quelque chose de particulier à faire avec son Église, mais il a aussi quelque chose de particulier à faire avec chacun d'entre nous au niveau de notre vie, d'accord? C'est très important de comprendre que Dieu a des projets. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu a des projets? Dieu a des projets. Et il faut que cette saison, tu entres dans ces projets-là. Il faut que cette saison-là, tu puisses expérimenter et entrer pleinement dans les projets que le Seigneur a pour toi. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est que tu puisses te préparer et te disposer à y entrer. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu refuses le statu quo. Il faut que tu refuses l'échec. Il faut que tu refuses de faire toujours du surplace. Il faut que tu progresses. La Bible dit que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation que le Saint-Esprit commence avec toi dès le premier jour de ta nouvelle naissance, il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue. Et il faut que chaque année... Parce que nous vivons au niveau naturel, selon le calendrier des êtres humains, selon les années, mais Dieu, lui, fonctionne avec les saisons. Et ma prière, au travers de cet enseignement, c'est que 2014 annonce aussi une nouvelle saison aussi pour ta vie. D'accord? Donc, cette saison dans laquelle tu entres, nous l'avons intitulée à la conquête des promesses. De quelles promesses on parle? De quelles promesses on parle? Parce que ce qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants de Dieu qui s'ennuient de leur vie chrétienne, c'est qu'ils entendent des choses à l'église, ils lisent des choses dans la Bible, mais ils ne les vivent pas. Et puis ils disent, bon, pourquoi je ne vis pas ce qui est écrit dans la Bible? Pourquoi les promesses sont seulement pour d'autres personnes et pas pour moi? Ça, c'est à cause d'une chose, de ton manque de connaissance. C'est souvent à cause du manque de connaissance, à cause de l'ignorance des promesses, de l'ignorance des clés du royaume contenues dans la constitution du royaume, la Bible. C'est souvent à cause de l'ignorance et du manque de connaissance que nous n'entrons pas dans nos promesses. Bien entendu, il y a une saison pour toute chose, dit la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, il y a une saison pour toute chose. Donc tout ne peut pas arriver en même temps. Mais dans chaque saison, Dieu a toujours quelque chose qu'il veut faire avec toi. Dieu t'emmène toujours, on va avec lui pas à pas, c'est toujours un processus notre marche chrétienne. On n'arrive pas à la gloire comme ça, on n'arrive pas à la réussite comme ça. Dieu commence toujours petit et comme dans tout processus naturel, on grandit. Et cette année, cette saison est une saison où tu dois grandir, passer à un autre niveau. Tu dois changer de niveau. Est-ce qu'on peut dire avec moi changer de niveau? Il faut que tu changes de niveau. Vous savez, cette semaine, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à cette parole. Le Seigneur m'a beaucoup instruit sur l'importance de saisir le surnaturel. Le surnaturel. Le Seigneur me faisait comprendre qu'on est trop dans le naturel. On est trop dans des choses visibles. Et pourtant, Paul nous exhorte dans la Bible à regarder aux choses invisibles. Il dit les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Et un enfant de Dieu, je le répète parce que j'aime souvent le dire, un enfant de Dieu est quelqu'un qui vit dans le naturel, mais qui opère dans le surnaturel. Il est conscient des choses surnaturelles, des choses spirituelles. Un chrétien ne peut pas vivre comme un païen. Le païen vit dans le naturel et est conscient que du naturel. Le chrétien vit dans le naturel, mais il sent les choses spirituelles. Il est connecté, parce qu'il est connecté à la source, il ressent et il sent les choses spirituelles. Il opère dans le surnaturel. Il a une connaissance et une perception du surnaturel que le païen n'a pas. D'accord? Et ça, ce sont des choses que l'on saisit que quand on est connecté à la source, à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'interpellait par rapport à ça. Il me disait, dis à l'Église qu'il faut qu'il soit conscient du surnaturel. Il faut qu'il soit conscient des choses spirituelles qui les entourent. Il peut y avoir des activités spirituelles autour de toi et tu es là, tu ne sais même pas. Tu ne sens même pas. Tu vois juste les choses arriver et puis tout le monde est surpris. Tout le monde dit, mais comment ça a pu arriver? Et toi aussi, tu viens, tu dis, mais comment ça a pu arriver? Non! Un enfant de Dieu ne doit pas être surpris comme les païens. Il doit arriver et dire, si ça s'est arrivé, c'est parce que spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je dois rentrer dans la prière pour que Dieu me montre ce qui se passe et qu'ensuite, je prenne autorité pour briser ça. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand on parle du Fils de Dieu ici, on ne parle pas que de Jésus. On parle aussi de toi et moi. Quel que soit ton âge, tu es un fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, quand il y a des activités démoniaques autour de toi, tu en es conscient et tu dois savoir te lever, te tenir à la brèche et prier. Amen. Prier. Et quand tu entres dans la saison des promesses, il y a des choses spirituelles qui t'attendent devant. Et tu dois les saisir, tu dois les percevoir. Et la saison, tu dois la posséder à l'avance. Tu dois la posséder déjà dans la prière. Il n'y a rien qui se fait sans que ce soit arrêté d'abord dans le spirituel. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui se fait dans le naturel sans que cela n'ait été arrêté dans le spirituel. C'est pour cela que quand tu démarres, quand tu entres dans une nouvelle saison, tu dois entrer dans la prière, te connecter à Dieu, voire poser des actes prophétiques pour prendre possession de la saison qui t'appartient. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ne prient pas. Un, ils ne prient pas. Deux, ils sont ignorants de la parole. Ils ne connaissent pas les clés, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas la parole. Donc, comme ils ne connaissent pas la parole, ils ne sont pas assis dans la parole, ils ne sont pas matures dans la parole, ils ne sont pas matures dans les choses spirituelles. Et le Saint-Esprit ne peut pas leur montrer certaines choses. Un jour, le Seigneur m'a révélé une chose qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie. Le Seigneur m'a fait comprendre que les révélations que tu vas recevoir de Dieu et pour ta vie vont être déterminées par ton niveau de maturité, ton niveau de connaissance. Il y a des révélations que Dieu ne peut pas te donner sur ta vie parce que tu n'es pas suffisamment mature. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un enfant parce que son niveau intellectuel ne peut pas saisir ça. D'accord? Si je commence à enseigner Pythagore, les mathématiques à ma fille, elle ne va rien comprendre, elle va me regarder avec des grands yeux, elle va dire, mais de quoi tu parles? C'est pareil pour Dieu. Il y a des révélations qu'il ne peut pas te donner parce que ton niveau spirituel, ton niveau intellectuel et spirituel n'est pas suffisamment grand pour saisir ça. C'est pour cela que tu dois grandir dans la parole et devenir mature spirituellement. La Bible parle de l'homme fait, de l'homme parfait, l'homme adulte spirituellement. Et c'est pour ça que tu dois grandir. Parce qu'il y a des révélations que Dieu veut te donner pour ta vie, mais il ne peut pas. Et quand on parle de conquête des promesses, mais il faut que tu saches de quelles promesses on parle. Tu dis, mais Dieu a des promesses pour moi. Il paraît que j'ai une alliance avec Christ. Mais il faut que tu connaisses cette alliance. Si tu ne connais pas ce qui est contenu dans l'alliance, si tu ne sais pas ce qui est contenu dans la constitution du royaume, c'est-à-dire la Bible, mais comment tu vas entrer dans les promesses? Tu ne peux pas. Dans le livre de Josué, la Bible nous montre que d'abord au temps de Moïse, il avait envoyé 10 espions, dont Josué lui-même faisait partie des 10 espions, pour aller explorer le pays. Ils sont partis explorer le pays. Il y en a 8 qui reviennent et qui disent, le pays, on ne peut pas le prendre. Le pays est trop compliqué. Il y a les géants d'Anak là-bas. On va nous tuer. Eux, ils ont vu les problèmes. Mais il y en a deux, Josué et Caleb, qui reviennent et qui disent, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu a livré le pays entre nos mains. Allons-y. Eux, ils avaient vu autre chose. Ils avaient vu une terre promise qui était leur terre à eux. Et c'est parce qu'ils avaient vu la terre promise, parce qu'ils avaient vu les promesses, qu'ils étaient suffisamment déterminés pour aller les conquérir. Et c'est pour cela que j'ai insisté au temps de la préparation, parmi les différentes exigences dont on a parlé la semaine dernière, quand on a dit prenez trois jours et prenez le temps d'aller chercher Dieu. Prenez le temps d'aller saisir exactement ce que Dieu a pour toi. Prends le temps d'aller chercher Dieu, le temps d'aller écouter Dieu. Note tout ce que le Seigneur te dit sur un papier. Note tes objectifs, les objectifs que tu te fixes. Note-les pour cette année. Note les projets. Note les portes qui doivent s'ouvrir. Note les exploits que tu dois accomplir. Note tout. Ensuite, tu emmènes ça devant le trône et tu dis, Dieu, cette année, cette saison dans laquelle je rentre, il faut que ça s'accomplisse. Je vais travailler, je vais être rigoureux, je vais être diligent, je vais faire le ménage autour de moi, je vais faire tout ce qu'il faut, mais Seigneur, il faut que ces portes-là s'ouvrent, parce qu'il faut que j'opère à une nouvelle dimension dans ma vie. Amen. Et l'alliance touche tous les domaines de notre vie. L'alliance touche touche la santé, touche la prospérité, touche la faveur, touche la fertilité, touche la paix. Elle touche tout un tas de tous les domaines de ta vie. Les relations, les enfants, la famille, le foyer. S'il faut que cette année tu te maries, il faut que tu te maries. Si tu veux te marier cette année, il faut que tu te maries. Si c'est ce que tu as mis dans ton cœur en projet, tu dis je vais me marier cette année. Tu emmènes ça devant le Seigneur et tu prends possession par la foi dans la prière déjà de cette promesse. Et ensuite tu fais ce qu'il faut. Mais tu vas le sceller. Et aujourd'hui c'est dans ce dont nous allons parler. La semaine dernière, nous avons continué sur le principe de la préparation. Nous avons parlé de quatre exigences très importantes concernant la préparation. Nous avons parlé de la première exigence sur l'ordre direct de Dieu. Parce que Dieu, avant de traverser le Jourdain, avant de rentrer et d'aller à la conquête des promesses, le peuple s'est préparé. Le peuple n'est pas parti au hasard. Le peuple a dû se préparer spirituellement, mentalement et physiquement. D'accord ? Je vous assure, ce que je suis en train de dire là, le Seigneur m'a montré hier soir que c'était un message prophétique qui s'applique déjà à nous-mêmes. Si on saisit ce message-là, et c'est le message sur lequel nous allons rester toute l'année, le Seigneur va nous emmener de progrès en progrès dans cet enseignement-là. Mais je vous assure que quand j'étais en train de rentrer en profondeur dans cette parole-là, Dieu me montrait des choses. En fait. Et Dieu me disait, si tu saisis ça, et si tu t'accroches à ça, tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Et c'est pour ça qu'il faut le saisir. On va prendre le temps, tu fais tout pour te procurer ça, tu le réécoutes et tu le réécoutes et tu le réécoutes. Et tu dis, cette année, tout ce qui est dit dans cet enseignement-là, c'est pour moi. Et cet enseignement-là est prophétique. Parcourez le camp. On a dit, première exigence, parcours le camp. C'est-à-dire, fais le bilan autour de toi, de tes relations, tes activités, tes priorités. Deuxième exigence, prépare-toi des provisions de prière, des provisions de jeûne, des provisions de méditation de la parole, des provisions de connaissances. Va te former, va t'instruire. Si tu veux rentrer dans un domaine particulier cette année, cette saison, tu dois aller te former. Tout n'est pas seulement spirituel, tout n'est pas seulement dans la prière. Il y a des moments où tu dois aller t'asseoir et t'instruire. Lis des livres. S'il faut retourner à l'école pour avoir un diplôme, un certificat, tu y retournes, mais tu te formes pour pouvoir augmenter ton niveau de compétence. C'est ce que la U appelle élargir l'espace de ta tente. Il faut que tu élargisses tes compétences. Il faut que tu élargisses tes capacités. Et comment tu fais? Ça passe aussi par la formation. Donc, c'est cela, faire le bilan. Faire le bilan se procurer des provisions. Troisième exigence, prends 3 jours de préparation dans la présence de Dieu. Prends le temps d'aller rester dans le calme avec le Seigneur, d'aller chercher la face du Seigneur. Et c'est ce que nous allons continuer à voir aujourd'hui. Et enfin, quatrième exigence, nous allons traverser le Jourdain. Et c'est ce par quoi nous avons terminé la semaine dernière. Le Jourdain, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est que le Jourdain? Pourquoi le peuple devait traverser le Jourdain? Que signifie le Jourdain? Que signifie le Jourdain? Le Jourdain signifie simplement le Saint-Esprit. Le Jourdain signifie ce fleuve dans lequel tu dois te baigner. La traversée du Jourdain signifie un baptême, ce baptême par lequel le peuple devait passer. C'était une expérience personnelle que le peuple devait vivre. Josué avait eu une expérience personnelle avec Dieu seul dans la tente de la rencontre. Mais il fallait que le peuple aussi expérimente quelque chose de personnel avec Dieu. Si le peuple n'expérimentait pas quelque chose de personnel avec Dieu, il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. C'était obligatoire. Tu peux avoir les armes, tu peux avoir les compétences, tu peux avoir les relations qu'il faut, mais pour Dieu, bien que cela aussi soit aussi important, pour Dieu, la chose la primordiale, la chose la capitale, la plus importante, c'est d'abord l'intimité que tu vas avoir avec lui. Parce que c'est dans l'intimité qu'il va se révéler à toi. Amen. Donc la traversée du Jourdain, le mot traversée, on a dit qu'il venait d'un mot hébreu qui veut dire, que l'on prononce Abba, A-B-A-R, Abba, qui veut dire aller au travers, pénétrer, entrer en profondeur dans quelque chose. Traverser. Est-ce qu'on peut dire avec moi traverser? Et la traversée du Jourdain demandait aux enfants d'Israël de faire un pas de foi. C'était la foi qui devait les amener à traverser. Et c'est par la foi que tu entres dans cette relation avec le Saint-Esprit. C'est par la foi que tu entres dans cette intimité-là. C'est par la foi que tu t'attends à recevoir des choses de lui. Et quand le peuple s'est apprêté à traverser le Jourdain, il y a eu tout un protocole. Et c'est ce protocole-là que nous allons voir aujourd'hui. Il y a eu tout un protocole pour que ce baptême du Saint-Esprit puisse se faire au travers du Jourdain. Le Jourdain, qui symbolisait le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée-là. Le thème du message d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent noter, est intitulé « L'intimité avec le Saint-Esprit, l'arme la plus puissante pour conquérir les promesses ». L'intimité avec le Saint-Esprit, l'arme la plus puissante pour conquérir les promesses. L'expérience du Jourdain symbolise cette intimité que nous avons, que nous expérimentons avec le Saint-Esprit. Et quand le peuple s'apprêtait à traverser le Jourdain, il y a eu tout un protocole que Dieu a ordonné à Josué. Et quand j'étais en train de lire la parole, quand j'étais en train de regarder ça de plus près, je me suis rendu compte que ce protocole annonçait quelque chose de prophétique. En fait, dans ce protocole de la traversée du Jourdain, là, le peuple, au travers de Josué, était en train de prendre possession de leur promesse. Et c'est ce que nous allons voir. Et nous allons d'abord prendre le temps de lire. Nous allons lire ce qui s'est passé. Pour ceux qui ont débit, moi, prendre le temps de lire. On va prendre Josué, chapitre 3. Chapitre 3. On va lire beaucoup. Ça fait un peu long, mais on va lire. On va lire parce qu'il fallait qu'on le lise. Si on ne lit pas ça, on ne pourra pas suivre le processus. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous ou encore consacrez-vous. Est-ce qu'on peut dire avec moi consacrez-vous?
Consacrez-vous.
Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Est-ce qu'on peut dire avec moi il fera des prodiges? Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever au milieu de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, 2 points, à ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Guirgaziens, les Amoréens et les Jébusiens et tous les Hiens, les Hiens. Voici, l'ange de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, est-ce qu'on peut dire avec moi maintenant? Prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Est-ce qu'on peut dire avec moi 12? un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. On continue. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple. » Est-ce qu'on peut dire avec moi 12? Un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Jusqu'à ce jour. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? L'intimité avec le Saint-Esprit. L'expérience du Jourdain symbolise cette intimité que nous expérimentons avec le Saint-Esprit. Passer le Jourdain symbolisait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un baptême que le peuple devait vivre, que le peuple devait expérimenter. Il y a une intimité que Dieu voulait que chaque enfant d'Israël ait avec lui. Parce qu'il savait que chaque enfant devait recevoir une révélation personnelle de Dieu pour aller à la conquête des promesses. Amen. L'expérience du Jourdain est une étape très importante. C'est une étape extrêmement importante. Si le peuple ne passait pas par cette étape, le peuple ne pouvait pas conquérir le pays. Si le peuple ne passait pas par l'étape de ce baptême, si le peuple ne passait pas par l'étape de baptême du Jourdain, d'intimité avec le Saint-Esprit, il ne pouvait pas conquérir le pays. Gloire à Dieu. Et la relation d'intimité que le peuple allait avoir avec le Saint-Esprit, allait avoir avec Dieu, allait déterminer la conquête ou bien la défaite. Et de même, avant d'entrer dans la saison de la conquête, tu dois aller chercher le Saint-Esprit. Tu dois aller chercher à être intime avec lui. Et cette intimité-là va t'accompagner tout au long de cette année. La clé du succès durant cette saison, c'est l'intimité. Sans intimité, ce n'est pas possible. Sans intimité, tu ne peux pas. Sans intimité, tu ne peux pas conquérir. Sans intimité, tu ne peux pas entrer en possession des promesses. Ce n'est pas possible. L'intimité, c'est tout. Quand tu regardes la vie des enfants de Dieu et que tu vois que certains enfants de Dieu rétrogradent, certains enfants de Dieu n'arrivent pas à évoluer avec le Seigneur, etc. En général, c'est qu'il y a un problème d'intimité avec Dieu. C'est qu'il y a un problème dans la communion avec le Seigneur. Quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur en permanence, quelqu'un qui développe une intimité profonde avec le Saint-Esprit est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour le monde de l'enfer. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Quelqu'un qui entend Dieu, quelqu'un qui ressent les choses de Dieu, c'est quelqu'un qui va aller très loin. Amen. Et cette communion-là, elle se développe dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Et pourquoi Dieu insiste autant sur l'importance d'avoir une intimité avec lui? Parce que tout simplement, c'est ce que lui aussi il recherche. Avant de te donner la puissance, avant de te donner l'onction, avant de te donner les compétences, avant de te donner les connexions divines, Dieu veut d'abord te donner lui-même. Il veut d'abord prendre possession de toi. Il veut d'abord prendre possession de ton cœur. Il veut d'abord te posséder. Il veut que tu sois amoureux de lui. Parce qu'il y a des choses, et la conquête ne sera pas facile. Personne n'a dit que la saison de la conquête allait être facile. Personne n'a dit que les choses que tu vas voir devant vont être évidentes. Tu vas les conquérir facilement. Personne n'a dit que l'année va être facile. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses, il y a des obstacles, des adversités qui vont se présenter devant toi, qui vont remettre en doute ta relation avec Dieu. Il y a des choses qui vont se présenter devant toi et qui vont remettre en doute la relation que tu as avec le Seigneur. Mais quand tu as développé une intimité profonde avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté au Saint-Esprit, quand tu connais le Saint-Esprit, quand tu connais Dieu, rien ni personne, comme dit Paul, ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut te séparer. Quelles que soient les difficultés, tu restes attaché au Seigneur. Intimité, est-ce qu'on peut dire avec moi intimité? La principale raison d'échec dans la vie de la plupart de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Et si tu veux réussir, il va falloir que tu sois intime. Tu veux réussir dans la vie avec le Seigneur, il va falloir que tu sois intime. Il va falloir que tu développes ta communion avec Dieu. La communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu est un enseignement que l'on n'entend pas souvent. Ce sont des enseignements qu'on n'entend pas souvent. Moi, j'écoute énormément d'enseignements qui sont prêchés par d'autres personnes. Il n'y en a pas beaucoup qui enseignent sur l'intimité. L'intimité avec le Saint-Esprit, l'amour que l'on a pour le Saint-Esprit, l'amour que l'on a pour Dieu, la communion que l'on a avec lui, comment développer une intimité profonde avec le Saint-Esprit, comment être ami avec Dieu. Rappelez-vous de l'enseignement que nous avons donné le mois dernier, l'adoration, le secret des amis intimes de Dieu. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas des gens qui font des exploits. Ce que Dieu recherche, ce sont des gens qui sont intimes avec lui. Et c'est quand tu deviens intime avec Dieu que tu pourras faire des exploits avec lui. Amen. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, sois intime avec lui. Sois intime. Sois connecté, sois proche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la moins comprise et la moins connue dans l'Église. Pourtant, le Saint-Esprit est la clé de la réussite. Jésus-Christ a dit, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qui est celui qui manifeste le royaume de Dieu dans notre vie? C'est le Saint-Esprit. J'irai même plus loin en disant que le Saint-Esprit est le royaume. Il est le royaume. Quand tu as trouvé le Saint-Esprit, tu as trouvé le royaume. Quand tu as trouvé le Saint-Esprit, le succès est garanti. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que la réussite? La réussite, ce n'est pas avoir un bon poste ou beaucoup de matériel luxueux. C'est pas cela qui détermine ta réussite. La réussite, ce n'est pas avoir un bon poste dans une entreprise ou bien un poste politique au sein d'un gouvernement ou bien rouler dans tel ou tel véhicule ou bien avoir autant d'argent sur ton compte en banque ou bien voyager au travers du monde. Ce n'est pas ça la réussite. Ça, c'est la réussite selon le monde. Selon le royaume, ça ne s'appelle pas réussite. Selon le royaume, ça s'appelle un semblant de réussite ou encore un échec réussi. Selon le royaume, ce n'est pas la réussite, ça. Est-ce qu'on peut dire amen? La véritable réussite, au regard de la Bible, la véritable réussite pour un enfant de Dieu, la véritable réussite, selon les critères du royaume, c'est d'être à la place à laquelle Dieu l'a destiné quand il l'a créé et de faire pleinement sa volonté dans ce monde. C'est ça la véritable réussite. C'est de trouver ce à quoi Dieu t'appelle, de le poursuivre et d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est quand tu es là où Dieu veut que tu sois que tu réussis. C'est quand tu es à ta place dans le royaume que tu prospères. C'est quand tu es à ta place dans le royaume que tu t'épanouis. Quand tu as trouvé ta place, quand tu as trouvé ton appel, tu vas t'épanouir. Tu vas t'épanouir et tu vas prospérer, tu vas réussir. Est-ce qu'on veut dire avec moi la réussite selon Dieu? Réussir avec Dieu. Mais pour cela, tu vas devoir être intime. Intime avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être intime avec le Saint-Esprit? Être intime avec le Saint-Esprit, être intime avec Dieu, veut simplement dire entretenir une relation étroite et personnelle avec lui. une relation étroite et personnelle. Cultiver cette relation tous les jours. Comment est-ce qu'on cultive cette relation? On la cultive par de différentes manières, par la prière, par la méditation de la parole, par le dialogue. On parle avec lui. On pleure avec lui. On rit avec lui. On est tout le temps à la poursuite de ses pensées. Si Dieu a dit dans Ésaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mais mon Dieu, tu dois chercher les pensées de Dieu. Tu dois chercher à connaître comment Dieu pense. Si tu te dis que Dieu pense comme toi, mais tu vas raisonner humainement, mais Dieu ne raisonne pas de manière humaine. Dieu, le naturel de Dieu, c'est le surnaturel. Tu dois chercher à entrer dans le surnaturel de l'intimité avec le Saint-Esprit et chercher à l'écouter, chercher à l'entendre. Est-ce que tu sais pourquoi le cœur de Dieu bat? Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, ton cœur commence à battre au même rythme que son cœur. Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, ta manière de voir le monde commence à être comme lui. Et tu commences à voir le monde comme lui, il voit le monde. Il y a des choses qui ne t'intéressent même plus. Des choses futiles de ce monde. Quand tu allumes la télévision, avant tu prenais plaisir à regarder certaines choses, mais plus tu deviens intime avec le Saint-Esprit, plus il y a des programmes, je t'assure, que tu ne peux plus regarder. Parce que tout simplement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est que au fur et à mesure que tu avances, que tu progresses dans cette intimité, ton cœur se transforme en fait. Ton cœur se transforme et ton cœur devient un avec son cœur. Et il y a des choses, même si tu es en train de regarder la télévision, c'est comme si tu sens maintenant ça te gêne, ça te dérange. Ça, c'est à cause de l'intimité. Ça n'a rien de religieux. C'est parce que tout simplement, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, que nous le contemplons de gloire en gloire. Et quand tu contemples Dieu, tout comme Moïse sortait de la tente avec le visage qui rayonnait, toi aussi tu sors, ton visage rayonne et ton cœur se transforme aussi. Il y a des choses qui ne t'intéressent plus. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le Saint-Esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand tu deviens intime avec lui. Quand tu nais de nouveau déjà, il vient habiter en toi. Mais il y a une fusion qui se passe. Il y a une fusion, une harmonie qui se met en place entre lui et toi. Dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » 1 Corinthiens 6, 19 dit que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Donc le Saint-Esprit habite en toi et moi. Et si le Saint-Esprit habite en toi, donc il est la personne la plus proche de toi. Il va falloir que tu le connaisses. Intimité, est-ce qu'on peut dire avec moi l'intimité? Il est la personne la plus importante. Et durant la saison de la conquête, durant la saison de la bataille, le Saint-Esprit sera ton partenaire privilégié. Le Saint-Esprit sera ton premier associé. Si tu n'as pas l'habitude de dialoguer avec le Saint-Esprit, mais que tu veux réussir durant la saison de la conquête, durant cette saison-là, tu vas devoir commencer à dialoguer avec lui. Tu vas devoir commencer à aller chercher, à écouter sa voix. Amen. Nous avons pour exemple David, dans le livre de Samuel, qui consultait tout le temps le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. David aussi a fait des croisades. David aussi a fait des conquêtes. La Bible nous montre 2 Samuel 2:1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans les villes de Juda ?» 2 Samuel 5:19. David consulta l'Éternel à nouveau en disant « Monterai-je contre les Philistins ?» 2 Samuel 5:23, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne les pas par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Avant, l'Éternel lui avait dit, c'est bon, je les ai livrés entre tes mains. Mais quand il consulte, il y a des fois Dieu dit oui, d'autres fois Dieu dit non. Et c'est cela, être intime avec Dieu. Chercher son intimité, c'est chercher son conseil, chercher sa voix dans la prière, dialoguer avec lui, lui parler et le laisser aussi te parler. Donc, entretenir une relation étroite avec le Saint-Esprit te protégera pendant la saison de la conquête. Te protégera sur le chemin de la conquête. Le fait d'être intime avec le Saint-Esprit t'évitera beaucoup de pièges. Le fait d'être en connexion avec le Saint-Esprit te permettra de ne pas tomber dans certaines ruses de Satan. Le fait d'être intime avec le Saint-Esprit t'évitera de prendre des mauvaises décisions pour ta vie durant cette saison. Car il y a des décisions et des choix que tu peux faire qui peuvent totalement détruire toute ta vie en cette saison. Il y a des projets que tu es sur le point de lancer, mais dans l'intimité, le Saint-Esprit va te donner les plans d'action. Dans l'intimité, le Saint-Esprit va te donner les étapes à suivre. Dans l'intimité, le Saint-Esprit va te donner, va te dire qui aller voir pour trouver les moyens de lancer ton petit projet, etc., etc. Donc, ta communion avec le Saint-Esprit est ton capital de départ et d'arrivée. Si tu perds cette communion avec Dieu, l'ennemi aura raison de toi en chemin. Ne perds pas cette communion. Cette communion est trop importante. Et traverser le Jourdain, symboliser cette expérience personnelle avec le Saint-Esprit que le peuple devait vivre avant d'entrer dans la saison de la conquête. Et nous aussi, nous devons aussi chercher à avoir cette intimité avec Dieu. Si tu veux décoller dans la vie, quels que soient les plans que tu as mis en place pour cette nouvelle saison, tu vas devoir aller chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? L'intimité, je le répète, est la clé de voûte de toutes les batailles que tu vas mener. Toutes les batailles que tu vas devoir mener, quelles qu'elles soient en cette saison, l'intimité est la clé. L'intimité est la clé. Et les gens qui ont fait des exploits avec Dieu, c'était des gens qui étaient intimes avec lui. Oui. Parfois, on est là, on cherche. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent? Qu'est-ce qui fait que Dieu le distingue? Qu'est-ce qui fait qu'il a quelque chose de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait qu'il est si différent? Pourtant, quand on le regarde, il n'y a rien. Il ne parle pas si bien que ça. Il ne s'habille pas si bien que ça. Il ne prêche pas si bien que ça. Il n'a pas plus d'argent que nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est aussi différent et qu'il a autant d'impact? C'est à cause de l'intimité. Parce que c'est quelqu'un qui est intime avec Dieu. Donc l'intimité avec le Saint-Esprit est le point de départ de la marche que nous avons avec Dieu avant d'entrer dans la saison de la conquête. Et après la préparation, après avoir parcouru le camp, après avoir fait le bilan, quand on est sur le point d'entrée sur la terre promise, quand on est sur le point d'entrée à Canaan, quand tu es sur le point d'entrée dans ton Canaan à toi, tu vas devoir faire un certain nombre de choses. Tu vas devoir suivre un processus. Quand tu entres dans cette intimité-là avec le Saint-Esprit, il y a un certain nombre de choses que le Saint-Esprit va te demander de faire. Il y a un certain nombre de choses que le Saint-Esprit va te révéler. Quand le Saint-Esprit va te les révéler, il va te dire, si tu fais ça, 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 il ne t'arrivera rien durant cette saison. Si tu fais ça, 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 tu rentreras en possession, tu posséderas ta saison, je te le garantis. Et il y a quatre choses que le Seigneur a demandé à Josué de faire. Quatre choses. Est-ce qu'on peut dire avec moi quatre? Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole, nous nous rendons compte qu'il y a quatre choses très importantes, quatre commandements, quatre ordres que Dieu a demandé à Josué de donner au peuple. Quand tu vas chercher l'intimité du Saint-Esprit pour ta vie, avant d'entrer dans la saison de la conquête, il va t'exiger ces quatre attitudes-là, ces quatre choses-là, qui sont extrêmement importantes. Et ça, dans le livre de Josué, qui est un livre prophétique, un livre qui nous parle de la conquête des promesses, quand on regarde de près le comportement, quand on regarde de près les paroles que Dieu a données à ce peuple-là, on se rend compte que prophétiquement, il y a des attitudes, il y a des choses que Dieu a demandées au peuple. Et ces choses-là aujourd'hui, ces commandements-là que Dieu donne au peuple aujourd'hui, elles s'adressent aussi à nous. Quatre. Est-ce qu'on peut dire avec moi quatre? La première étape que j'ai appelée l'étape de l'intimité avec le Saint-Esprit. La première étape, la première chose, le premier commandement, le premier ordre que Dieu demande au peuple de faire, de suivre, avant de rentrer sur la terre promise, c'était la consécration. Est-ce qu'on peut dire avec moi la consécration? Il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 3, au verset 5, nous l'avons lu tout à l'heure, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Consacrez-vous. Consacrez-vous. Quand on parle de consécration, on parle de mettre ta vie à part, de consacrer toute ta vie et tout ce qui t'appartient à Dieu. La consécration est extrêmement importante. Si tu ne te consacres pas, Dieu ne peut pas te protéger, Dieu ne peut pas te garantir la victoire. Si tu veux faire la différence en cette saison, consacre-toi. Si tu veux plaire à Dieu, consacre-toi. Et la consécration touche tous les aspects de notre vie. La consécration touche tous les aspects de notre vie. La consécration consiste à ranger sa vie, à faire le ménage à tous les niveaux et à dire à Dieu que désormais, je ne m'appartiens plus. Ma vie est à toi, Seigneur. La consécration. Est-ce qu'on peut dire avec moi la consécration? 1 Corinthiens 6, 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» La consécration est le point de départ pour avoir une intimité profonde avec lui. La consécration. Sans la consécration, tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit. Sans la consécration, tu ne peux pas connaître Dieu. L'arme la plus puissante des véritables adorateurs, c'est la consécration. L'arme la plus puissante des gens qui font des exploits avec Dieu, c'est leur consécration. Ce sont des gens qui se mettent à part. Ce sont des gens qui ne se souillent pas. Ce sont des gens qui ne vivent pas dans l'impureté. Ce sont des gens qui ne se corrompent pas. Ce sont des gens qui ne se compromettent pas. Parce que la compromission, je t'assure, elle viendra frapper à ta porte dans la saison de la conquête. Dans la conquête, ta foi sera remise en doute. Dans la conquête, ta foi sera testée. Ta fidélité sera testée. Et tu devras te consacrer. Est-ce qu'on peut dire avec moi la consécration? La consécration ou encore la sanctification est une arme puissante pour vaincre le diable. Quand les démons te regardent comme ça, ils voient qu'ils ne peuvent pas te toucher parce que tout simplement, il y a une gloire qui t'environne parce que tu es consacré. Tu es consacré à Dieu. La Bible dit dans le livre des prophètes, ne touchez pas à mes prophètes. Elle dit aussi dans le livre de Zacharie que vous êtes la prunelle de mes yeux. La consécration. Tant que tu demeures pur et consacré, le diable ne peut pas te toucher. La consécration te garantit la présence de Dieu sur ta vie et tant que cette présence de Dieu reste là, le diable ne pourra jamais t'atteindre. Et durant la saison de la conquête, tu vas devoir te protéger. Et la meilleure protection que tu puisses avoir, c'est celle du Saint-Esprit. Cette consécration-là, cette protection-là, tu l'as parce que tu es intime avec le Saint-Esprit. Tu l'as parce que le Saint-Esprit est un avec toi. Et même s'il y a des événements qui vont venir te secouer, même s'il y a des événements qui vont venir te faire peur, le diable ne pourra pas t'atteindre. La Bible nous montre que Job se consacrait. Et même si Dieu a permis que Satan le frappe, Dieu a dit, par contre, tu ne touches pas à sa vie. Et le diable ne pourra jamais prendre ta vie dans la saison de la conquête parce que tu es consacré. Et la Bible nous montre dans le livre prophétique de Josué que durant les batailles, le peuple de Josué revenait. La Bible ne montre pas qu'il y a eu des morts. Ils revenaient tous. C'était eux qui faisaient des dégâts. Le diable ne faisait pas de dégâts au milieu d'eux. C'était eux qui faisaient des dégâts. Mais ça, c'est parce qu'avant, ils avaient expérimenté une intimité avec le Saint-Esprit et qu'ils s'étaient consacrés. Et il dit bien, consacrez-vous car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Et cette saison-là, Dieu va faire des prodiges avec toi. Est-ce que tu peux dire amen?
Amen.
Dieu va faire des prodiges avec toi parce que tu te seras consacré. La consécration, c'est l'acte de se mettre à part pour le Seigneur. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Tu veux voir Dieu agir dans ta vie en cette nouvelle saison? Consacre-toi. Et tant que tu demeures consacré, le diable ne pourra pas t'atteindre. Mais si tu pèches, si tu te compromets, si tu laisses l'impureté te toucher, c'est fini. La porte s'ouvre et Satan entre. Quand on regarde l'histoire de Balaam, du peuple juif dans le désert, avec l'épisode de Balaam et Balak, lorsque Balak va voir Balaam, il dit « maudit ce peuple ». Balaam va voir Dieu, il dit « tu ne peux pas maudire ce peuple est béni, ce peuple m'est consacré ». Et quand vous lisez bien l'histoire dans le livre de Nombres, chapitre 22 et chapitre 23, on se rend compte que la stratégie que Balaam a adoptée, c'était quoi? Là, il dit que les filles du royaume de Balak entrèrent au milieu du peuple d'Israël et la débauche s'introduisit au milieu du peuple et la colère de l'Éternel s'enflamma et Dieu frappa et il mourut plus de 20 000 personnes en ce jour à cause de la débauche qui est entrée au milieu du peuple. Pourtant le peuple était consacré et là c'est même pas Satan qui a frappé, c'est Dieu lui-même qui a frappé à cause de la débauche. Donc durant la saison de la conquête, tu vas devoir te consacrer. Si tu ne te consacres pas, si tu pêches, si tu joues avec le péché en cette nouvelle saison, ne t'attends pas à ce que Dieu fasse des exploits au milieu de toi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ne t'attends pas. Il faut se consacrer. Est-ce qu'on peut dire avec moi se consacrer? Donc, l'immoralité peut détruire ta vie. Ton corps est ta garantie pour rester sur la terre. Et s'il y a bien une chose que Satan voudra détruire avant tout, c'est ton corps. S'il y a une chose que Satan voudra atteindre, c'est ton corps. Il y a plusieurs péchés que l'on peut commettre, mais il y a un péché sur lequel la Bible insiste énormément, c'est le péché de débauche, d'impudicité. C'est le fait de jouer avec l'impureté. Quand tu joues avec l'impureté, la porte s'ouvre. Il y a des esprits tels que des esprits de séduction qui peuvent entrer dans ta vie et qui peuvent te détruire. Et ce que Balak avait envoyé au milieu du peuple d'Israël, c'était un esprit de séduction. Le peuple a été séduit, le peuple est tombé dans l'impureté et le peuple a été frappé. Amen. Donc se consacrer, c'est extrêmement important. 1 Corinthiens 6, 13 dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 3, 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saint. Consacre-toi. Donc se consacrer est la première phase de l'intimité profonde que nous avons avec le Saint-Esprit. Amen. Et quand Josué et le peuple sont en train de traverser le Jourdain, quand ils sont en train de poser cet acte prophétique, la Bible nous dit plusieurs choses. La Bible nous dit que, je vais relire rapidement, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever au milieu de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Chapitre 4, au verset 2, il dit, « Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes. » Est-ce qu'on peut dire avec moi 12? 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Verset 6, il dit, lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. 12. Que signifie pour vous cette pierre? Et j'ai posé la même question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que signifient ces 12 pierres? Pourquoi Dieu demande à Josué de prendre 12 pierres? Au moment où ils sont en train de passer le Jourdain, au moment où ils sont en plein milieu du Jourdain, à l'endroit où les sacrificateurs sont arrêtés, et que les eaux sont répandues de gauche et droite, Dieu dit 12 hommes vont ramasser 12 pierres à cet endroit. Et ensuite vont prendre ces pierres et vont sortir de l'eau avec ces pierres. Ces pierres étaient au fond de l'eau. Amen. Ces pierres étaient au fond de l'eau. Et lui-même va prendre 12 autres pierres et va venir remettre à la place où les enfants d'Israël les ont enlevées. Ce passage est prophétique. C'est prophétique. Et ce passage nous révèle ici comment Dieu venait de sceller, en fait, la victoire. Comment Dieu venait de sceller la victoire d'Israël sur les peuples de Canaan. 12. Et ce que Dieu était en train de me montrer au travers de cette parole, c'est que, en posant cet acte, Josué venait spirituellement d'ouvrir les portes de la victoire. Et il faut toujours se rappeler que tout est spirituel. Tout est spirituel. C'est pour cela que je disais au début que la victoire en cette nouvelle saison, on la gagne d'abord dans le monde spirituel. Ne t'engage jamais au niveau naturel si spirituellement, c'est pas bon. Si spirituellement, tu n'as pas entendu le go. Et rien ne se fait dans le naturel sans que cela n'ait été scellé dans le spirituel. Et ça, Josué l'avait compris. C'est pour cela qu'il a scellé cette victoire dans le monde spirituel avant. Amen. C'était très important. Et moi, J'ai envie de dire aujourd'hui que en cette nouvelle saison, la victoire spirituellement nous sera garantie. Elle nous sera garantie parce que spirituellement, on va poser des actes, parce que spirituellement, on va sceller la victoire dans le surnaturel. Amen. C'est très important. Et moi, je le déclare au nom de Jésus-Christ que ta victoire en cette saison, elle est déjà effective. Si tu le crois, dis avec moi, amen. Je déclare que Canaan, ta terre promise, est maintenant conquise au nom de Jésus-Christ. Et Canaan, elle est à nous. Notre Canaan, ton Canaan, notre Canaan, la maison du bâtisseur, notre Canaan, nous l'avons. Notre Canaan, nous le prenons, nous le possédons prophétiquement. ton Canaan à toi, au nom de Jésus-Christ, c'est le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Et cette année, tu vas entrer en Canaan. Cette année, la terre promise, Étienne. Cette année, tu vas poser des actes. Et cette année, j'ai envie de t'encourager, j'ai envie de te rassurer que n'aie pas peur, fonce. Mais avant ça, entre dans l'intimité du Jourdain, entre dans l'intimité du Saint-Esprit et scelle cette victoire-là. Scelle cette victoire-là par les 12 pierres. Scelle cette victoire-là par, dans cette intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Et quand on pose la question, que signifient ces 12 pierres? Quand je demande cela au Seigneur, le Seigneur me dit, les 12 pierres que Josué a prises dans le Jourdain signifient 12 choses. Ou encore 12 bénédictions que tu vas bénéficier dans cette intimité-là et qui vont t'accompagner tout au long de la saison de la conquête. Amen. 12. Est-ce qu'on peut dire avec moi 12? Et on va terminer par cela. On continuera la semaine prochaine sur ce point-là. Ces pierres avaient une signification. Elles exprimaient prophétiquement des bénédictions que le peuple d'Israël venait de récolter, venait d'avoir, qu'il venait de gagner dans cette intimité et qui leur a permis de remporter la victoire. 12. 12 pierres. 12, dans la Bible, c'est un homme prophétique. 12, c'est un homme extrêmement important. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que le chiffre 12 revient très souvent. Très souvent. 12, est-ce qu'on peut dire avec moi 12? 12. Le chiffre 12 n'est pas choisi par hasard. Dieu ordonne à Jésus de choisir 12 hommes. Ils vont emporter avec eux 12 pierres. Chaque pierre représente une des tribus, des 12 tribus d'Israël. Ils vont sortir du Jourdain et la Bible nous montre qu'ils vont bâtir un autel de 12 pierres. 12, dans la parole de Dieu, c'est le chiffre du gouvernement, dans la Bible. C'est le chiffre du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire avec moi gouvernement? La Nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 piliers dans le livre d'Apocalypse. Jésus a organisé son gouvernement avec les 12 apôtres. Et cette saison dans laquelle tu entres, il y a combien de mois? Il y a 12 mois. Et ces 12 mois-là vont être scellés prophétiquement lorsque tu vas entrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Le chiffre 12 ici, c'est le chiffre du gouvernement, c'est le chiffre du règne. Et cette année, il faut que tu règnes. Cette année, il faut que tu exerces ton autorité. Cette année, il faut que tu bénéficies et que tu vives pleinement les bénédictions que le Seigneur a pour toi, les promesses de l'Alliance. Amen. Et chacune de ces pierres représente 12 bénédictions que Dieu te donnera si tu entres dans l'intimité profonde avec lui. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, on reçoit des choses. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, on entend des choses. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, on expérimente des choses. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, on reçoit des bénédictions. Et ces bénédictions-là, ces 12 bénédictions-là, prophétiquement, Josué venait de nous les révéler ici. Amen. Et ces 12 bénédictions-là sont 12 promesses de l'alliance que Dieu venait de faire avec lui. Dieu est en train de lui dire, ces 12 pierres-là représentent 12 choses, 12 bénédictions que vous allez recevoir lorsque vous allez traverser le Jourdain. Et ces 12 bénédictions-là vont vous permettre de remporter la victoire à Canaan. Et ton Canaan, aujourd'hui, tu le possèdes parce que, tout simplement, tu as scellé la victoire dans cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Et ces 12 bénédictions-là, ces 12 choses-là, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Amen. Mais il y a, aujourd'hui, un acte prophétique que j'ai envie de nous demander de faire. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Le Seigneur m'a dit que tu dois poser des actes par la foi, prophétiquement parlant. Tu dois poser des actes. Et je prie vraiment que Dieu aujourd'hui nous donne les moyens à chacun d'entre nous de pouvoir poser cet acte-là. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous encourager à faire, c'est que chacun prenne un multiple de 12. En commençant par 12 000 francs, il prenne un multiple de 12 et il sème ça pour cette saison. Il sème ça. Il y en a qui vont semer 12 000, d'autres vont semer, quelqu'un d'autre va semer 24 000. Quelqu'un d'autre va semer 36 000, quelqu'un d'autre va semer 48 000, 60 000, 72 000, 84 000, 96 000, 108 000, 120 000, etc. Un multiple de 12. Si tu n'as que 12 000, tu donnes 12 000. Si tu as 24 000, tu donnes 24 000. Peu importe, mais c'est une semence que tu fais. Amen. C'est un acte prophétique. Et c'est un acte prophétique. Et cet acte que tu vas poser, ce sera une manière de sceller, en fait, cette année-là. C'est une offrande que tu vas apporter à Dieu. Amen. Mais quand tu vas apporter cette offrande-là à Dieu, tu vas dire, Dieu, au travers de cette offrande-là, qui est un multiple de 12, je scelle prophétiquement les 12 mois à venir de cette année-là. Amen. C'est ça que Dieu m'a montré dans la parole. Et 12, là, ce n'est pas un chiffre qui est choisi par hasard. Il n'y a pas 12 mois dans l'année par hasard. Chaque pierre est la prise de possession de un mois. Chaque pierre. Si tu saisis ce message-là, et que tu t'accroches et que tu t'attaches à ce message-là, je t'assure, avant fin 2014, tu viendras témoigner. Ouais, tu viendras témoigner. Amen, gloire à Dieu. On va incliner la tête. On va incliner la tête. Aujourd'hui, je crois que Dieu est en train de nous parler. Aujourd'hui, je crois que Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Et je nous encourage, chacun d'entre nous, à entrer en profondeur dans cette intimité-là avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et aller chercher la face de Dieu par la prière, par la méditation. Mais j'encourage chacun d'entre nous à aller personnellement poser la question à Dieu et dire, Seigneur, qu'as-tu pour moi pour cette saison? Quelles que soient les promesses que tu as pour moi, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces promesses sont miennes en cette saison 2014. Je déclare qu'en cette nouvelle saison prophétique, ma vie va être transformée. Ma vie va changer. Je vais entrer en possession des promesses de l'alliance que tu as pour moi en Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la fin de cette année ne me trouvera pas comme elle m'a trouvé au commencement. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année, la gloire de Dieu sera manifestée dans ma vie. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, si depuis tu as toujours été stérile, parce que dans l'alliance en Christ, il y a une promesse que l'on appelle la fertilité. En cette nouvelle saison, tu seras fertile et tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. L'alliance concerne aussi des promesses de prospérité. Si, parce qu'elle concerne aussi des promesses de prospérité, en cette nouvelle saison, tu expérimenteras une nouvelle dimension financière dans ta vie. Tu ne vivras plus le manque. C'est juste qu'ici, tu as toujours eu le manque. Parce que tu auras scellé prophétiquement cette saison, parce que tu auras scellé la victoire prophétiquement sur cette saison, je t'assure, la prospérité te suivra. Tu n'auras même plus besoin de la poursuivre. Elle te suivra dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Et aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur que cette année, tu expérimenteras des percées spirituelles que tu n'as jamais connues auparavant. J'en suis convaincu. Parce que je l'ai reçu. Et quand je reçois cela dans la parole, je sais que ça va arriver. Et c'est pour cela que par la foi, il faut s'accrocher. Par la foi, il faut y aller. Et quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, ils ont traversé le Jourdain par la foi. Parce qu'ils savaient que cet acte de foi était un acte prophétique qu'ils posaient. Et ils entraient dans une intimité particulière avec Dieu. Et à cause de cette intimité qu'ils allaient expérimenter avec Dieu, la victoire leur était garantie. Et Josué, qui était le leader du peuple, venait simplement de sceller la victoire sur le Canaan. Et notre Canaan, ton Canaan, t'attend pour cette nouvelle saison. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire et la louange. Sois honoré, Saint-Esprit. Sois révéré, sois exalté. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Seigneur, prophétiquement, nous venons devant toi, Seigneur. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que cette nouvelle saison est nôtre. Que cette nouvelle saison, dans cette nouvelle saison, nous verrons la manifestation de ta gloire. Dans cette nouvelle saison, nous verrons la manifestation des promesses de l'alliance en Christ que tu as pour nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu n'as pas choisi, Seigneur, le chiffre 12 par hasard. Tu n'as pas choisi le chiffre 12 par hasard, parce que tout simplement, 12 est le chiffre du gouvernement, 12 est le chiffre du règne, et parce que dans l'année, il y a 12 mois, et parce qu'aujourd'hui, en ce jour où nous annonçons ce message, nous sommes aussi le 12 janvier. Seigneur, le 12 janvier 2014, nous scellons, Seigneur, cette saison. Nous scellons la victoire sur cette saison. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que chaque pierre ici représente, Seigneur, le fait de sceller chaque mois de cette année, Père, au nom de Jésus-Christ. Les promesses de l'alliance que tu as pour nous, Seigneur, s'accompliront dans nos vies, Seigneur. Promesses de santé, promesses de paix, promesses de faveur, promesses de fécondité. Pour tous ceux qui ne peuvent pas enfanter, en cette saison, ils enfanteront. Promesses de prospérité et de percée financière. Pour tous ceux qui ont toujours connu le manque, en cette saison, Seigneur, ils ne connaîtront plus le manque, Seigneur. plus de manque dans ton église, plus de manque financier dans ton église, plus de manque, Seigneur, au niveau du travail, plus de manque au niveau professionnel, plus de manque, Seigneur, à tous égards, dans la vie de tes enfants, dans ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'en cette année, Seigneur, nous entrons, Seigneur, dans une nouvelle dimension spirituelle, Seigneur, avec toi. Je déclare, Seigneur, que à partir de maintenant, à partir du 12 janvier, Seigneur, 2014, Seigneur, à partir du 12 janvier, Seigneur, le chiffre 12 représente, Seigneur, le règne, Seigneur, et la domination, Seigneur, en cette saison, Seigneur, dans laquelle nous sommes en train de rentrer, la saison de la conquête des promesses. Et je déclare, Seigneur, dans cette saison, toutes les promesses de l'Alliance, Seigneur, sont nôtres, Seigneur. Promesses de prospérité, promesses, Seigneur, de faveur, promesses d'exploit dans les affaires, Seigneur. Je déclare dans cette saison, Seigneur, tous ceux qui ont des entreprises, Seigneur, verront des portes surnaturelles s'ouvrir, Seigneur, et voir leur entreprise monter à une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce qu'en cette nouvelle saison, Seigneur, tous les entrepreneurs, Seigneur, de ta maison, Seigneur, verront, Seigneur, des percées financières, verront, Seigneur, leurs entreprises, Seigneur, prospérer, Seigneur, et atteindre des niveaux, Seigneur, auxquels ils ne s'attendaient pas. Et ils auront témoigné, Seigneur, des chiffres d'affaires, Seigneur, qu'ils auront fait, Seigneur, avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils viendront et apporteront leurs offrandes de gratitude en disant, Seigneur, merci pour le message prophétique, Seigneur, que tu nous as donné en ce début de saison et que nous avons scellé, Seigneur, par, Seigneur, ces 12 pierres, par, Seigneur, ce multiple de 12, Seigneur, cette semence, cette offrande, Seigneur, ce multiple de 12 que nous amenons dans ta maison. Certains emmèneront 12 000 francs, d'autres emmèneront 24 000 francs, d'autres emmèneront, Seigneur, un multiple de 12 quelconque. Mais, Seigneur, chacun d'entre nous, nous allons sceller, Seigneur, cette année, nous allons sceller cette saison au nom de Jésus-Christ et nous déclarons, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, quelle que soit, Seigneur, l'adversité que nous allons rencontrer, que la victoire est nôtre, Seigneur, en cette nouvelle saison. Merci, Seigneur, pour les entrepreneurs que tu susciteras en cette nouvelle saison. Merci, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, que tu béniras, Seigneur, en cette nouvelle saison. Merci, Seigneur, pour les foyers, Seigneur, qui verront des choses extraordinaires en cette saison, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les promesses de faveur. Seigneur, le bonheur et la grâce et la faveur de Christ, Seigneur, en cette saison, nous accompagne, Seigneur, dans toutes nos activités, dans toutes nos entreprises, au nom de Jésus-Christ. Merci également, Seigneur, pour la réussite dans la vie scolaire des jeunes, Seigneur. Merci parce qu'en cette nouvelle saison, il n'y aura aucun échec, Seigneur, dans la vie des jeunes, Seigneur. Aucun échec scolaire, Seigneur, dans les jeunes. Ils réussiront tous. Et Seigneur, à la fin de l'année scolaire, en cette saison de la conquête, Seigneur, nous célébrerons. Nous célébrerons, Seigneur, la réussite scolaire de nos jeunes, Seigneur. Nous célébrerons, Seigneur, la réussite au milieu des entreprises. Nous célébrerons des mariages. Nous célébrerons des foyers restaurés. Nous célébrerons des enfants retrouvés. Nous célébrerons des ministères révélés. Nous célébrerons la croissance de ton Église. Nous célébrerons, Seigneur, oh Dieu, la manifestation et l'activité angélique, Seigneur. Nous célébrerons Christ. Nous célébrerons ton nom dans la maison de Dieu. Nous célébrerons ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, car nous attendons à toi, Père. Nous attendons à toi, Seigneur. Tu dis dans le psaume 130, au verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » J'attends sa promesse, Seigneur. Nous attendons ta promesse en cette nouvelle saison. Nous attendons à toi. Nous sommes dans l'expectative et nous sommes déjà dans la joie. Seigneur, merci pour la consécration. Merci parce que chacun d'entre nous, nous nous consacrons. Nous nous sanctifions. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que l'impureté, Seigneur, ne touchera aucun de tes enfants. L'impureté, l'impudicité et l'immoralité ne touchera aucun de tes enfants. Et toute personne, Seigneur, dans ta maison qui est en prise avec l'impudicité, qu'il soit délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne dans ta maison qui vit la stérilité, Seigneur, elle devient fertile maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit, Seigneur, la maladie que cette personne, Seigneur, oh Dieu, a maintenant sur elle, Seigneur. Je déclare que dans le monde surnaturel, Père, il n'y a pas, Seigneur, de choses incurables et le mot impossible n'existe pas. Quelle que soit la maladie, Seigneur, à l'écoute de ce message, quelle que soit la maladie que la personne qui écoute ce message a, Seigneur, que ce soit le VIH, SIDA, que ce soit le cancer, que ce soit la paralysie des jambes, Seigneur, je déclare qu'un miracle entre maintenant, Seigneur, dans le cœur de cette personne et qu'elle soit totalement guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour l'œuvre que tu as commencé dans sa vie et que tu rends parfaite. Que Seigneur, la guérison, Seigneur, de cette personne qui écoute ce message soit maintenant effective et scellée dans le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette personne soit totalement guérie, Seigneur, au nom de Jésus, et que Seigneur, ta gloire soit manifestée dans sa vie, Seigneur. Quelle que soit la maladie, Seigneur, les médecins de ce monde ont dit que cette maladie est incurable. Seigneur, nous disons qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et par la foi, Seigneur, je proclame une guérison, Seigneur, totale, Seigneur, et effective, Seigneur, sur tout le corps humain, Seigneur, de quiconque écoute ce message, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que prophétiquement, cette saison est une saison de gloire, une saison de victoire, une saison de la manifestation, Seigneur, et de l'accomplissement des promesses, Seigneur, de l'alliance que nous avons avec Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire et la louange. Sois honoré, sois exalté, sois béni, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire. Merci pour les 12 pierres. Merci pour les 12 bénédictions de l'intimité avec le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la consécration. Merci, Seigneur, pour la suite, Seigneur, de ce voyage que nous avons commencé avec toi. À toi soit toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever simplement et acclamer le Seigneur et dire Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.